Redonner des ailes à la liberté, une courte émission de la CAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Alors, dans les précédentes émissions, dans la précédente émission d'il y a 15 jours, nous vous parlions justement de poursuivre les gens qui font des horreurs ailleurs que sur notre territoire ou sur notre territoire. La CAT, justement, dans ses nombreuses activités, lance ce qu'on appelle des campagnes. Ça dure plusieurs mois. Et là, ça tombe très bien parce que la semaine prochaine, la campagne qui va s'ouvrir, qui va durer du mois de mai au mois de septembre 2015, c'est une campagne qui va essayer de se pencher sur ce qu'on appelle la compétence universelle. Alors là, nous avons besoin d'apprendre et de travailler sur ce phénomène.
Crime contre l'humanité, coupable, jugé. Compétence universelle, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Ça. Ouais.
Alors voilà une bien étrange compétence qui s'annonce par une question, Jacqueline.
Oui, mais la question la voilà. La France veut-elle rester une terre d'impunité ou veut-elle enfin prendre part au combat international contre l'impunité des pires crimes existants ?
Grave, grave question.
Oui, alors ben, tu peux m'expliquer, parce que il y en a peut-être comme moi qui ne sont pas au courant de ce thème. Qu'est-ce qu'en définitive la compétence universelle ?
Ah, alors ça va parce que j'ai un écrit sous les yeux, hein, sinon moi je ne savais pas non plus. La compétence universelle, c'est un dispositif absolument essentiel de la justice internationale. C'est la capacité d'un tribunal national de juger les crimes les plus graves, même s'ils sont commis à l'étranger, par un auteur étranger à l'encontre d'une victime étrangère. La compétence universelle est également appelée, et on peut le comprendre, compétence extraterritoriale, car les crimes ont été commis en dehors du territoire national et sans lien avec le territoire.
Alors, ce mécanisme existe pour les crimes les plus graves au monde.
Voilà.
En France, il existe, par exemple, pour la torture et les disparitions forcées.
Oui.
Pourtant, on ne peut pas engager des poursuites judiciaires n'importe comment. Et l'auteur présumé du crime doit se trouver sur le territoire français, je crois.
Oui.
Pour qu'une enquête judiciaire puisse être initiée.
Oui, tout à fait. Mais alors, à mon tour de poser une question, là, pourquoi la France devrait-elle juger des crimes contre l'humanité alors qu'il y a des tribunaux internationaux pour le faire ?
Eh bien, parce que depuis le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, une justice internationale a vu progressivement le jour. Mais les tribunaux internationaux ne sont pas compétents partout. Ils ne peuvent juger qu'une partie infime des responsables de ces crimes.
Massif. Alors, je voulais rappeler, c'est pas drôle. Hein,
c'est pas pour que n'importe quel jugement.
Absolument pas. C'est pas des petites choses. Hein. Les pires crimes ont jalonné le 20e et le 21e siècle, et on n'est sûrement pas au bout de nos peines. Hein. Crimes contre l'humanité sous le régime des Khmer Rouges au Cambodge. Exécutions, disparitions et tortures massives sous le régime Pinochet au Chili.
Oui, nos sœurs ont vu ça quand elles sont arrivées au Chili.
Voilà, tu vois, vous êtes bien placés pour le savoir. Et sous la dictature militaire argentine, et génocide au Rwanda, crimes de guerre et crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie, et encore aujourd'hui, en Syrie. Rendre les responsables de ces crimes redevables, c'est faire justice aux victimes.
Oui, parce que, alors, en définitive, les conventions internationales contre la torture, le génocide ou les crimes de guerre, ainsi que le procès Eichmann en Israël en 1961, eh bien, ils ont développé ce devoir de tous les États de juger ces crimes.
Oui.
L'ensemble des 123 États qui ont ratifié le statut fondateur de la Cour pénale internationale ont d'ailleurs affirmé leur détermination à mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes les plus graves. Chaque État, comme la France, s'est engagée également à soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux et donc de se doter d'une compétence universelle.
Alors, une minute pour réfléchir à tout ça. Après cette réflexion, sur laquelle nous reviendrons plusieurs fois, puisque je vous ai dit que c'était une campagne qui va durer du mois de mai au mois de septembre, ne risque-t-on pas de créer davantage de tensions diplomatiques, puisqu'on vient d'en faire les frais, là, hein, on est en train d'en faire les frais, ne risque-t-on pas de créer davantage de tensions diplomatiques ?
Bien sûr, il existe des risques d'irriter les autorités étrangères en poursuivant en France des criminels de guerre étrangers.
Oui, bien sûr.
De l'affaire Pinochet à la tension diplomatique franco-marocaine récente, c'est une évidence. Mmh. Oui. Enquêter et juger des crimes internationaux de ce type ne plaira jamais aux autorités des pays concernés. Mais si ces criminels présumés ne sont jamais jugés dans leur pays, c'est qu'ils sont protégés, justement, par ces mêmes autorités.
Voilà.
Et on ne parle pas ici de petits délits ou de crimes ordinaires, comme bien sûr quand on parle de Pinochet, hein, c'est des centaines. Mais des pires crimes qui puissent exister et toucher la conscience humaine. Il y aura toujours des frictions diplomatiques.
Oui, et les affaires sont d'autant plus sensibles qu'elles touchent à la tête de l'État. Le plus haut niveau peut être concerné face à ces crimes massifs. Hein. Et des chefs d'État ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Tu le disais tout de suite, hein, l'ancien général Pinochet, l'ex-président serbe Milosevic ou libérien Charles Taylor. En 2015, le procès de l'ex-dictateur tchadien Abré s'ouvre au Sénégal. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture.
Aucun territoire, et en premier lieu, bien sûr, le territoire français, ne doit être un refuge pour ces criminels. Vous entendez bien. Hein, parce que la France doit avoir le courage de mettre en œuvre ses discours et ses principes qui sous-tendent notre République. La France doit avoir le courage de mettre en œuvre ses discours et les principes qui sous-tendent notre République. Donc, la lutte contre l'impunité de ces crimes de masse s'inscrit dans cette stratégie à long terme. Elle doit primer sur les intérêts économiques et diplomatiques conjoncturels.
Alors, je me souviens de l'émission d'il y a 15 jours, où il était question de cela, et où on faisait allusion à cette histoire diplomatique avec le Maroc. Et pour se faire pardonner, entre guillemets, maintenant on va essayer de donner notre pays va essayer de donner la Légion d'honneur à ce monsieur Amouchi qui est le garant, j'allais dire, entre guillemets, le garant de la pratique de la torture dans son pays. Hein.
Et c'est pour ça que l'article avait comme titre la Légion de déshonneur. Déshonneur,
voilà.
Pourquoi le droit français empêche-t-il de poursuivre ces criminels ?
Alors, notre droit actuel empêche toute poursuite judiciaire en France d'auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide commis à l'étranger en raison de 4 verrous.
Alors, c'est lesquels ?
Alors, il y a le monopole du parquet. Celui-là, j'en dis deux mots. Le premier verrou est toujours présent dans le texte que l'Assemblée nationale doit être amenée à examiner. Hein. Ça va être tout de suite. Hein. C'est le point central de la mobilisation de la CAT qui demande sa suppression. C'est-à-dire que la loi prévoit que seul un procureur peut décider d'enclencher une procédure judiciaire. Pour les gens qui nous entendent et qui sont dans le droit, c'est plus simple à comprendre que pour...
Oui, parce que là, c'est un peu compliqué. C'est un peu
compliqué pour nous. Mais enfin, voilà le premier verrou, le monopole du parquet. Il est, en matière de crimes internationaux, il est d'ailleurs unanimement dénoncé par la Commission nationale des droits de l'homme et par les organes des droits de l'homme des Nations unies. Le deuxième verrou, c'est la résidence habituelle en France. C'est-à-dire qu'il faut que pour qu'un responsable de génocide ou de grand crime soit jugé dans un territoire qui n'est pas le sien, ou tout au moins en France déjà, il faut qu'ils résident habituellement en France. Alors ils sont très malins, ils viennent passer les vacances, ces personnes viennent passer les vacances en France, des petites touches comme ça, ils profitent de la France, mais prennent bien soin de ne pas y résider réellement. Donc ils sont inattaquables. Le troisième verrou, c'est la condition de double incrimination, c'est-à-dire que les faits doivent être punissables à la fois par le droit français, mais pas également la législation de l'État où ils ont été commis, selon la condition de double incrimination. Et par exemple, le droit syrien ne connaît pas les crimes de guerre. Alors la France ne pourrait donc pas juger un criminel de guerre syrien.
Ah oui.
Bon, alors... La France, le quatrième verrou, et j'en termine, la France se défausse aussi sur la Cour pénale internationale. Oui, évidemment, quand cette Cour pénale internationale a été créée, avec ses textes, elle donne au contraire la priorité aux États pour poursuivre ses crimes. Ce n'est que si l'État manque de volonté ou est dans l'incapacité de mener ses poursuites que la Cour pénale internationale peut se déclarer compétente. Voilà, on est obligé d'aller vite parce que notre émission va se terminer.
Alors tu peux nous dire, que propose la CAT pour ça ?
Alors évidemment, la CAT ne fait pas que dire ce qui ne va pas bien, elle fait des propositions. Et en 2013, le Sénat a supprimé 3 des 4 verrous que je viens de vous présenter vite fait là, présents dans la loi. L'exclusivité de l'engagement d'une procédure judiciaire par le procureur demeure. C'est ça qui empêche que ça avance. Alors la CAP demande la suppression du monopole du parquet présent dans l'article 689.11 du Code de procédure pénale. Elle n'est pas la seule à la réclamer, cette suppression. La CAP travaille avec une coalition. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui,
plusieurs. Une coalition de 45 organisations issues de la société civile. Les syndicats, barreaux, associations de vétérans et de soldats, organisations humanitaires, organisations des droits de l'homme, qui soutient également cet amendement. Par ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et plusieurs comités des droits de l'homme de l'ONU ont fait parvenir cette même demande à plusieurs reprises au gouvernement français. Voilà. On tombe pile, Jacqueline, c'est quand même vite fait. On aura besoin de réviser ces textes qui sont extrêmement difficiles.
Mais on le reverra au cours de toute l'année.
Toute l'année. Donc, venez nous rejoindre, parce qu'on aimerait bien être un peu plus nombreux, sur l'Eure-et-Loire. Parce que quand on voit l'Assemblée Générale qui vient de se produire sur toute la France, attendez, on est 33 000 adhérents à la CAP, plus les sympathisants, plus... Donc, c'est une organisation bien constituée. Mais pour ce qui concerne l'Eure-et-Loire, il n'y a qu'un lieu de réunion pour le moment. Il est au presbytère de Rechèvre, à Chartres, alors évidemment, à 20h30. Quand on habite Nogent-le-Retrou ou Châteaudun, c'est pas très commode. Mais ça serait dynamique qu'on soit beaucoup plus nombreux à ces réunions, qui nous tiennent au courant de toutes ces informations. Voilà, chers amis auditeurs, merci de votre écoute. À bientôt.
Au revoir, Marie-Claire.
Au revoir, Jacqueline.